nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou pour sa récente parution aux éditions d'organisation chez Erol, Petit précis d'économie appliquée à l'usage du citoyen pragmatique. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
On peut dire que votre sujet tombe à pic dans une actualité qui suscite un double débat, celui du constat d'une sous-culture économique d'une grande majorité de Français, et on s'aperçoit de plus en plus qu'elle est la source de nombreux blocages, et plus récemment, sur la qualité et le niveau de l'enseignement de l'économie à l'école, à l'université. Nous allons y revenir. Alors, ce sont des thèmes d'ailleurs qui vous tiennent à cœur. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po et à Paris 7. La lecture de votre ouvrage démontre à l'évidence que vous avez des dons de vulgarisation et de pédagogue. Vous êtes en plus à la tête d'un capital absolument inestimable. Donc chaque jour, je m'aperçois de son intérêt, c'est-à-dire votre jeunesse.
Merci, ça ne durera pas. Hein.
Voilà, c'est ce que je me dis aussi.
C'est un capital qui s'épuise.
Vous dirigez par ailleurs la société d'études Asterès que vous avez créée, si j'ai
Tout
bien compris. Et vous avez enfin, vous venez d'être distingué par le comité de sélection du prix Turgot, du meilleur livre d'économie financière de l'année. Votre ouvrage, en effet, fait partie des 6 nominés pour ce prix, qui est organisé, je le rappelle, par l'Association des élèves et des anciens élèves de l'Institut de haute finance, qui a été créé par Georges Pompidou en 1972. Ce sera donc la 21e édition qui se tiendra au Sénat le 4 mars prochain. Et donc, vous êtes dans la course et encore bravo pour votre présélection parce qu'elle a été rude. Je crois qu'il y a eu 300 parutions dans l'année et le comité de présélection a été mis lui aussi à rude épreuve. Alors, première question, Nicolas Bouzou, vous connaissez d'ailleurs, auteur d'ouvrages beaucoup plus, on va dire, techniques, réservés à des professionnels. Vous avez notamment fait paraître chez Bréa, c'est ça ?
Bréal,
les mécanismes de marché. Alors, c'était un ouvrage très, très technique.
Hein, tout à fait. Oui, c'est un ouvrage de théorie pure qui était issu d'un cours que je donnais, un cours de microéconomie assez aride, on va dire.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a pris brusquement de vous tourner vers le grand public et de faire de la vulgarisation avec cette parution ? Quels étaient vos objectifs ?
Je crois en réalité que si on regarde la production littéraire en économie de ces dernières années, il y a eu assez peu de livres faits pour le grand public. Et l'impression que j'avais, c'est que finalement, on a une production littéraire en économie qui est bonne en France, qui est même de très haut niveau, mais ce sont essentiellement des économistes qui s'adressent aux économistes, en réalité. Et de par ma profession, je suis amené à voir beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de cadres d'entreprise à Paris, en province. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme besoin de compréhension, finalement, par rapport à... On le voit bien en ce moment, puisque nous sommes en train de vivre cette fameuse crise du subprime américain. Ce sont des mots un peu barbares qui font peur. Et en même temps, il y a vraiment une grosse demande. Et je dirais que cette demande de pédagogie, elle est d'autant plus forte que chacun sent bien que la croissance économique n'est pas très forte, que les gains de pouvoir d'achat ne sont pas très rapides en France, alors même que... Chacun sait également que nous avons été, en tout cas jusqu'à un passé récent, dans un environnement économique mondial qui était très bon. Et donc, voilà, il y a vraiment une demande pédagogique qui est extrêmement forte. Mais je crois qu'il y avait deux contraintes pour écrire ce type de livre. D'une part, il faut bien se rendre compte que les gens qui travaillent en entreprise, notamment, puisque je pense à eux en entreprise ou dans des administrations, peu importe, disons les gens qui travaillent,
ont peu de temps. Dans le secteur productif, on va dire.
Dans le secteur productif, exactement, sont des gens qui ont peu de temps. Si en plus ils ont des enfants, ils doivent s'en occuper le soir, les faire travailler, etc. Et donc, ils ont très peu de temps pour lire. Donc, il fallait faire un livre qui soit court. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait faire un livre qui soit clair. Et je vous promets, et ça n'a pas été facile, qu'à chaque phrase, je me suis dit en permanence, mais est-ce que je vais être compris ? Est-ce que ce que j'écris peut être compris ? Et finalement, ce livre, je le dis sans fausse modestie, ce n'est pas mon style d'être particulièrement modeste, mais sur le fond, en réalité, il ne fait que refléter le consensus des économistes de par le monde. Et aujourd'hui, finalement, les économistes ont une vision assez consensuelle.
Oui, ce n'est pas une
théorie personnelle. Ce n'est même pas bien original, pourrait-on dire. Son originalité, en revanche, j'espère, tient au fait que j'essaye de rendre ces théories très accessibles. C'est-à-dire que je parle de problèmes qui sont tout à fait des problèmes pratiques. L'organisation de la sécurité sociale, l'organisation du marché du travail, la réforme de l'État, l'éducation nationale. Mais j'utilise une machinerie, finalement, sous le capot. Vous avez l'ensemble des outils de la théorie économique tels qu'ils ont été développés ces dernières années.
En tout cas, je peux en témoigner. C'est un ouvrage qui est particulièrement accessible et qui, bien entendu, parle de l'essentiel. Alors, ce que vous dites dans votre introduction, il s'agit de dire la vérité sur l'économie. Alors, la vérité sur l'économie, pour la France, oui. C'est quoi le constat ? On va commencer par ça.
Alors déjà, je crois, si vous voulez, qu'il y a une vérité en économie. C'est une question qu'on pose souvent. C'est vrai que ça paraît un petit peu arrogant. Et puis, finalement, est-ce que la science économique est une science ? Est-ce qu'il y a une vérité ? Alors oui, je suis absolument persuadé que la science économique est une science, avec ses insuffisances. Mais c'est une science, sans aucun doute, depuis la fin du 19e siècle. Et on peut appliquer un certain nombre d'outils scientifiques aux problèmes de l'économie française. Alors, ces problèmes de l'économie française, quels sont-ils ? Je vais commencer par dire quels ne sont pas ces problèmes en réalité. Oui. La mondialisation, par exemple, n'est pas un problème. C'est une chance. Ça peut être un problème pour un certain nombre de personnes, mais au niveau global, c'est une chance. L'Europe n'est pas un problème.
Alors, c'est une chance dans le sens de quoi ? C'est-à-dire une accélération des échanges ?
Oui, c'est ça.
Une ouverture...
Pour faire vite, la mondialisation, c'est essentiellement trois choses. Ce sont des flux commerciaux, donc de biens et services plus importants. Ce sont des investissements financiers qui, de par le monde, circulent de plus en plus vite et de façon plus en plus fluide. Et c'est aussi une émigration et une immigration des personnes qui est un petit peu plus intense. C'est ça, la mondialisation, c'est la conjonction de ces trois phénomènes. Et ces trois phénomènes, toutes les études aujourd'hui montrent qu'elles ont abouti à élever la croissance économique au niveau mondial de façon tout à fait exceptionnelle. Mmh. Mais ce qui est peut-être plus important et mal connu en France, que finalement, ce sont surtout les pays pauvres, disons-le, les pays les moins avancés, qui en ont profité. Pour peu que ces pays s'intègrent dans les échanges, il ne faut pas que ce soit des pays protectionnistes ou des pays en guerre, bien entendu, mais je pense à des pays comme, vous pensez des pays aussi divers que la Chine, bien entendu, mais l'Inde, le Brésil, la Turquie, le Maroc, ce sont des pays qui se sont immergés dans la mondialisation et qui aujourd'hui en tirent des bénéfices, à la fois en termes de croissance économique, mais de façon très pratique, on voit l'émergence d'une classe moyenne dans ces pays. Vous prenez un pays comme le Maroc, ça vaut le coup d'aller à Casablanca une fois par an, et vous verrez la façon dont la ville change tous les ans, et vous verrez la façon dont on voit vraiment une classe moyenne émerger. Et c'est donc aussi une chance pour nous, parce que il ne s'agit pas d'être cynique, mais ces gens-là, ce sont aussi des gens à qui nous pouvons vendre.
Des consommateurs.
Bien sûr, ce sont des consommateurs.
D'accord. Mais c'est d'ailleurs ce qui explique probablement que la pauvreté, contrairement à une idée reçue, globalement, a régressé dans le monde. Et ça, c'est déjà une des premières ambiguïtés.
Exactement.
Qui est peut-être liée d'ailleurs à la sous-culture dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. Et quand on regarde, par exemple, c'est un indicateur parmi d'autres, mais la part des personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, ce qu'on appelle la pauvreté relative. Alors, il y en a bien sûr énormément, toujours trop, mais cette part n'a jamais été aussi faible. Okay, et le monde connaît aujourd'hui une période de développement comme jamais il n'en a connu de mémoire de statisticien. C'est-à-dire que ce que connaissent les pays auxquels j'ai fait référence, c'est finalement ce que nous, les pays comme la France, comme le Royaume-Uni, ont connu au 19e siècle avec la révolution industrielle.
Alors, pour revenir sur le constat, donc vous dites, vous insistez sur deux points. Premièrement, ce déclin français relatif, vous dites bien relatif.
Relatif, bien relatif. Entendu.
C'est d'abord le chemin des réformes qui n'a pas été emprunté, et deuxièmement, la rigidité du marché du travail.
Alors,
certainement dans une bonne mesure, mais enfin, tout cas, le premier élément mérite un éclaircissement.
Oui, tout à fait. La mondialisation, elle met bien entendu les entreprises en concurrence, mais elle met aussi les États en concurrence.
Tout à fait.
Et c'est ça d'ailleurs qui a amené un certain nombre d'États à se réformer ces dernières années. Alors, se réformer, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas quelque chose de douloureux en soi, la réforme, c'est tout simplement le changement. Donc, le changement, on peut aussi voir ça comme une opportunité. Le changement, ça veut dire mettre en place, la réforme, c'est mettre en place des structures institutionnelles qui vont permettre aux entreprises de créer davantage de richesses. Parce que, et ça, je regrette d'avoir à le rappeler, parce que c'est quelque chose... Alors là, c'est vrai, je ne peux critiquer la France et je pense qu'il faut, il faut être fier de son pays, mais il y a quand même un point en France qu'on a du mal à admettre, c'est que ce sont, et je ne cesse de répéter, ce sont les entreprises qui font la croissance et qui créent les emplois. Mais quand je dis les entreprises, c'est pas seulement les chefs d'entreprise. Les entreprises, ce sont les chefs d'entreprise avec bien entendu leurs salariés qui doivent être motivés et bien payés. Ça veut dire aussi les actionnaires qui financent les entreprises, ça veut dire les banquiers, etc. C'est ce que les anglo-saxons appellent les stakeholders, c'est-à-dire tous ceux qui ont finalement qui ont des enjeux dans le monde de l'entreprise. Et ce sont donc les entreprises avec tous ces gens-là qui font la croissance et qui créent les emplois. Et pendant longtemps, en France, on va dire depuis la fin des années 70, on a quand même pensé que c'était à l'État de donner une sorte d'impulsion à l'économie, c'est-à-dire ce qui explique une grande partie la progression de nos déficits publics et de notre dette publique. Mais cette vision-là, qui est une vision keynésienne standard, qui n'est pas totalement fausse d'ailleurs, mais disons qu'elle a été battue en brèche dans les années 80 et aujourd'hui, assez peu de pays l'appliquent. Et beaucoup de pays, la plupart des pays occidentaux, des pays émergents aussi d'ailleurs, se sont réformés en se disant finalement que l'économie de marché, c'était une chance et que le meilleur moyen de combattre la pauvreté, de combattre le chômage, le meilleur moyen de permettre aux gens d'accéder à un pouvoir d'achat élevé, eh bien, c'était finalement de faire en sorte que les entreprises évoluent dans l'environnement institutionnel qui leur permette d'être compétitifs. Et en France, on y vient en France. On y vient, on a l'impression qu'on y est, mais c'est relativement neuf.
Oui, on disait que c'était le pire à l'exception de tous les autres.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Et si vous voulez, tous les pays l'ont fait, les pays anglo-saxons, bien entendu, mais en réalité, quand on parle de réforme, et quand je parle de réforme, on dit souvent, mais vous voulez que nous imitions le modèle anglo-saxon. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas d'un modèle anglo-saxon, puisque des pays aussi divers que l'Allemagne, que les pays scandinaves, que l'Irlande, que l'Espagne même dans une moindre mesure, mais qu'un pays comme l'Italie, tous ces pays se sont réformés, bien sûr, considérablement. Et d'ailleurs, finalement, tant mieux pour nous, d'une certaine façon, parce que quand on est en retard, c'est toujours plus facile, puisqu'on n'a plus qu'à imiter ceux qui réussissent. Et c'est un petit peu la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. D'accord. Et vous remarquerez, on parle beaucoup des réformes qui sont proposées par la commission Attali, hein, ce fameux catalogue de 350 mesures, mais dans ce catalogue de 350 mesures, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt bien fait, mais il y a très peu de choses originales. Ce sont essentiellement des mesures qui ont marché à l'extérieur et oui, qu'il faudrait appliquer en France.
C'est ça, c'est ça qu'il faudrait appliquer en France. Oui, alors, ça c'est dans la commission Attali, peut-être qu'on peut en dire un mot de plus. Alors, les points sur lesquels ils insistent, les principaux points, bon, en dehors de la réforme de l'enseignement.
Oui, mais j'y reviendrai parce que je trouve que c'est un des points les plus intéressants et plus originaux de la commission Attali. Mais sinon, dans ces mesures, je dirais, rien de très original. Et d'ailleurs, ce sont beaucoup des thèmes que je reprends dans mon ouvrage. C'est-à-dire, d'une part, eh bien, essayer de rendre la fiscalité des entreprises un petit peu plus compétitive, parce qu'il faut bien comprendre que dans un environnement qui est mondialisé, qui est globalisé, les ressources, que je vous disais tout à l'heure, peuvent se déplacer d'un pays à l'autre.
Bien sûr.
Et notamment les entreprises. Les entreprises peuvent se déplacer d'un pays à l'autre. Et on voit déjà un certain nombre de grandes entreprises qui essaient de s'implanter dans des pays qui sont fiscalement attractifs. On n'en voit que le début, mais des entreprises américaines qui veulent s'implanter à Dubaï, ce sont des choses qu'on commence à voir et ça n'est que le début. On peut trouver ça injuste, on peut trouver ça pas bien, mais il y a aussi un moment où il faut regarder la réalité, il faut regarder le monde tel qu'il est, même si par ailleurs il est légitime de le critiquer. Et donc la grande tendance aujourd'hui, si vous voulez, dans le monde entier, c'est de diminuer les impôts qui pèsent sur les entreprises. Et comme évidemment on ne peut pas se priver totalement de recettes publiques, eh bien on essaie d'augmenter d'autres types d'impôts. Alors, on essaie soit de diminuer les dépenses publiques, ce qui est la solution idéale, mais ça ne se fait pas en un jour, soit on transfère un petit peu d'impôts sur les entreprises ou un petit peu de charges sociales sur la TVA. C'est ce qu'en France, on appelle la TVA sociale. Et donc là, pour le coup, on a vraiment raté complètement la pédagogie, puisque j'ai peur qu'elle soit enterrée.
Ça a été rejeté avant même d'être...
Voilà, exactement. Alors qu'en réalité, tous les pays qui ont aujourd'hui de bonnes performances économiques l'ont fait, la TVA sociale. Et il ne s'agit pas de frapper fiscalement les gens les moins aisés. C'est pas ça du tout. Il s'agit seulement de revoir un petit peu notre fiscalité et de revoir les bases fiscales en se disant que finalement, eh bien, les consommateurs profitent de la mondialisation parce que ils profitent des importations des pays à faible coût de salaire, etc. Et donc, en contrepartie, on peut augmenter un petit peu, pas beaucoup, mais la fiscalité sur la consommation. Donc, c'est pas quelque chose qui est scandaleux en soi. D'ailleurs, beaucoup de pays le font.
C'est un peu alléger le coût du travail. En fait.
Voilà, exactement.
Ça revient à ça, à répartir un petit peu différemment, sachant qu'on a touché quand même maintenant des sommets et que c'est impossible d'aller plus loin. On rejoint la nécessité de la pédagogie.
Tout à fait.
Alors, le constat, donc, il est ce que vous avez dit. Peut-être à cet instant, on pouvait vous dire, vous le souhaitiez tout à l'heure, un mot sur l'aspect particulier des recommandations à Nathalie concernant.
Oui.
On répondra déjà de cette façon sur donc l'enseignement de l'économie, la sous-culture. Je crois me rappeler que dans une enquête qui remonte à un an ou deux, on avait constaté que 70% des Français ignoraient même la réalité, enfin l'existence des indicateurs économiques.
Oui,
c'est pour vous dire que c'est grave quand même.
Tout à fait. Et il y a aussi un an ou deux, c'est un sondage que je cite dans mon ouvrage. Ouais. Finalement, on avait demandé aux gens est-ce que l'économie de marché, on avait demandé à un échantillon représentatif, est-ce que l'économie de marché c'est bien. Je crois que c'était à peu près 80% à répondre que ce n'était pas bien.
Ouais.
Et bien entendu, on était le seul pays, mais même pas parmi les pays développés, mais même par rapport à un pays comme la Chine, par exemple, eh bien nous avions les moins bons résultats.
Nous étions les leaders.
Ce qui est tout à fait étonnant. Qui est tout à fait étonnant parce que. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de voir le monde avec des lunettes roses et l'économie de marché, elle crée des inégalités. C'est absolument incontestable. Mais sur le fait que l'économie de marché est le seul système dans l'histoire de l'humanité qui ait permis d'accéder au niveau de vie que nous connaissons aujourd'hui, qui est quand même exceptionnel. Il faut voir les progrès économiques qui ont été réalisés en France en 150 ans. C'est absolument quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, on a tendance à l'oublier. Mais finalement, c'est vrai qu'il est difficile pour moi de comprendre. Ce rejet. Et donc, j'en prends évidemment ma part de responsabilité. S'il y a un tel rejet, eh bien, c'est probablement que les économistes, comme moi, hein, j'en prends, mais n'ont pas bien
économistes.
Fait leur boulot. Ouais. Ça c'est sûr.
Alors, donc, pour l'enseignement.
Juste sur un aspect qui me paraît intéressant de ce que propose la commission Attali, est assez original, pas pour les économistes américains, mais ça fait longtemps justement que les économistes en parlent. C'est sur finalement le financement de l'éducation nationale. Ouais. Et finalement, la commission Attali nous dit, une idée à laquelle je souscris totalement, nous dit finalement. Nous avons besoin aujourd'hui, c'est un peu une tarte à la crème de le dire, pardonnez-moi cette expression, mais nous avons besoin, dans une économie concurrentielle comme la nôtre, d'avoir des gens qui sont de mieux en mieux éduqués, et même pour des métiers comme, je pense particulièrement, aux métiers de service à la personne, qui se développent beaucoup. On pourrait se dire, pour être nourrice ou pour s'occuper d'une personne âgée, pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes. Peut-être pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes, mais il faut avoir un sacré sens des responsabilités, il faut avoir un très grand niveau de professionnalisme. Il faut savoir lire, écrire, il faut savoir se présenter, arriver à l'heure. Et donc, finalement, ce sont des choses aussi que l'on doit apprendre à l'école. Et aujourd'hui, donc, dans tous les métiers, même ceux qui ne nécessitent pas de diplôme, d'études supérieures, mais pour tous les métiers, on a besoin absolument d'un bagage minimum et on a besoin d'avoir une grande rigueur, etc. Et
donc, une compréhension minimum de l'économie.
Exactement. Et donc, la question de l'éducation est absolument centrale aujourd'hui. Et la commission Attali nous dit, finalement, pour faire en sorte que ce marché de l'éducation soit le plus performant possible, il faut que les écoles, les universités soient en concurrence. On y vient d'ailleurs, puisque la loi sur l'autonomie des universités, c'est une façon un petit peu de mettre les universités en concurrence. Mais il faut que les écoles soient en concurrence. Il faut supprimer la carte scolaire. Il faut que les gens puissent choisir leur école. Il faut faire payer aux gens le coût d'éducation, parce que l'éducation a un coût. Mais bien évidemment,
elle a un prix. Hein.
Bien évidemment, tout le monde ne peut pas le payer. Donc, il n'est pas question de laisser des gens sur le bord du chemin. Mais il faut donner finalement des sortes de chèques éducation aux gens qui n'auraient pas les moyens de se payer, aux parents qui n'auraient pas les moyens de payer une bonne éducation à leurs enfants, mais il faut que les gens aient conscience du prix de l'éducation. Ça, si vous voulez, c'est une réforme qui est profonde, les économistes en parlent depuis longtemps, et ça pourrait changer beaucoup de choses, parce que je vois l'espèce de bouillonnement intellectuel qu'il y a dans le monde éducatif, je le vois à l'université, je vois qu'il y a énormément d'énergie qui sont bridées, beaucoup de professeurs qui voudraient faire énormément de choses, qui ont plein d'idées, qui ont plein de très bonnes idées, notamment pour rapprocher l'université de l'entreprise, ou même les écoles de l'entreprise, mais la seule chose qu'ils demandent, c'est un petit peu plus d'autonomie. Et on y va, et je suis content que la commission Attali le reconnaisse.
C'est un excellent plaidoyer pour les universités et les enseignants. Bravo.
Mais tout à fait. On a un système universitaire. On va pas se mentir. On a un système universitaire qui aujourd'hui souffre d'un retard considérable par rapport, par exemple, au système universitaire américain. ça n'est pas du tout un problème de compétence. Moi, ouais. je ne rencontre...
D'envie, pratiquement.
Et encore moins d'envie, j'aurais envie de dire. Je connais énormément de professeurs qui sont parfaitement conscients de ce que demande le monde de l'entreprise et qui ont envie de faire réussir leurs élèves et qui travaillent, qui passent une partie considérable de leur temps. Mais par contre, ils demandent un peu d'oxygène, un peu d'initiative.
D'accord. Et puis, commencer peut-être l'enseignement un peu plus tôt. Alors, dès le primaire, c'est peut-être un peu tôt, mais enfin... En tout cas, pas simplement attendre les deux dernières années avant le bac pour commencer.
Je suis entièrement d'accord avec vous. J'irai un peu plus loin que vous. J'irai le commencer peut-être un peu plus tôt et le commencer, n'ayons pas peur de le dire, peut-être aussi autrement.
Voilà. Alors, sur l'autrement, on va rester politiquement correct.
Donc bien sûr.
On va pas lever le voile, mais nous sommes compris. Donc, et vous-même, d'ailleurs, vous avez votre parcours, ça a été quoi? Vous avez fait des études
Un parcours universitaire. Donc, des études tout à fait classiques. À l'Université Paris-Dauphine et puis à Sciences Po par la suite.
D'accord, très bien, donc à Sciences Po. Alors, on en vient maintenant à la fin de cet entretien, je crois qu'on vous garderait très très longtemps, mais il faut qu'on respecte nos horaires. Alors, comment sortir de l'impasse? Pas de traitement homéopathique, vous dites, et donner des perspectives à nos enfants. Je vous lis d'ailleurs, parce que c'est très bien écrit, ça donnera une idée de votre écriture très très aérée. C'est dans vos conclusions. Ainsi, la France bouge. Poussé par les entrepreneurs, les créateurs, les familles qui insufflent l'élan manquant aux élites. Non, le malade n'est pas condamné. Il n'est sûrement pas incapable d'affronter le diagnostic de ses maux. Encore faut-il avoir le courage de poser ce diagnostic et d'administrer le traitement qui s'impose. Alors, ce traitement, c'est quoi?
Écoutez, je vais prendre un exemple que finalement assez peu de gens connaissent, qui est particulièrement frappant, qui est l'exemple de l'Irlande. L'Irlande, dans les années 70, était un pays... Allez, on va dire, pour être un peu provocateur, de paysans en déshérence, un petit peu, et ça n'a absolument rien de péjoratif.
Subventionné, d'ailleurs.
Très subventionné, ouais. Exactement. Aujourd'hui, le revenu par tête en Irlande est à peu près 30-35% supérieur à celui des Français, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des Irlandais est très supérieur à celui des Français. Il n'y a plus de chômage en Irlande. Et surtout, les Irlandais ne partent pas à l'étranger pour essayer de trouver des emplois à l'étranger ou de monter leur entreprise à l'étranger. Ils restent en grande partie en Irlande où ils y reviennent pour le plus grand bonheur de leurs parents. Donc ça a des conséquences extrêmement concrètes. Qu'ont fait les Irlandais? En réalité, rien de très compliqué. Ils ont procédé à une réforme fiscale qui a consisté à diminuer les impôts sur les entreprises pour essayer de faire venir au maximum des entreprises étrangères en Irlande. Vous vous en souvenez, c'était toute la fameuse période de ces centres d'appel où il y avait beaucoup de centres d'appel qui allaient en Irlande, ce qui a évidemment tiré l'économie irlandaise, ce qui a permis de former la main-d'œuvre, qui a permis de donner des perspectives, qui a redonné de la croissance.
De faire venir des grandes entreprises aussi.
De faire venir des grandes entreprises.
Style Coca-Cola.
Qui sont restées, mais plus seulement pour des centres d'appel, mais qui ont en quelque sorte monté en gamme et qui recrutent des gens d'un niveau de plus en plus haut avec des salaires qui sont bien entendu de plus en plus élevés. Et puis à côté de cela, eh bien, faut remettre en ordre nos finances publiques. On le voit bien aujourd'hui où nous traversons une passe conjoncturelle un petit peu difficile et où nous manquons de moyens, par exemple, pour baisser les impôts, alors qu'une baisse des impôts serait quelque chose de plutôt bienvenue pour l'économie française. Donc je crois que d'un côté, il faut réformer la fiscalité des entreprises. Celle des ménages, on l'a déjà fait en partie ces dernières années. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut réformer la fiscalité des entreprises. Il faut très certainement travailler sur l'articulation entre la recherche publique et la recherche privée. On a une bonne recherche publique en France. On a évidemment de très bonnes entreprises qui font de la recherche et développement, etc. Mais en revanche, les deux ne se parlent pas. Et puis, la condition sine qua non pour que tout ça soit possible, eh bien, c'est de remettre un petit peu d'ordre dans nos finances publiques. Là encore, les exemples étrangers ne manquent pas. Et on pense en particulier aux pays scandinaves ou même à un pays comme l'Italie. Mais ce que je voudrais dire, pour terminer, ce qui me paraît très important, c'est que quand on fait de bonnes réformes en France, ça marche et de façon assez spectaculaire. Aujourd'hui, nous venons d'avoir les chiffres sur la création d'entreprises en 2007. Oui. Les créations d'entreprises ont atteint un nouveau record. La création d'entreprises a été considérablement facilitée par des lois qu'on a appelées les lois sur l'initiative économique qui datent de 2003. Et on est passé d'un nombre de créations d'entreprises annuelles d'à peu près 200-250 000 à un nombre de créations d'entreprises supérieur à 300 000. Ce qui veut dire que tout ce qu'on nous avait dit sur les Français n'ont pas l'esprit d'entreprise, les Français n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat, tout cela était faux. À partir du moment où on a levé les contraintes, les gens se sont mis massivement à créer des entreprises. Pas seulement des bac plus 5, des bac plus 6 ou des bac plus 7. Beaucoup de demandeurs d'emploi ont créé leurs entreprises. Et je me souviens à l'époque, certaines personnes nous disaient « Oui, mais si on crée plus d'entreprises, il y aura aussi davantage de défaillances d'entreprises parce que ce sont des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de compétences en gestion, etc. » ça ne s'est pas du tout passé, le nombre de défaillances n'a pas du tout augmenté, et ces gens qui ont créé leur entreprise, eh bien, ils ont rehaussé en quelque sorte notre potentiel de croissance. Alors, ça ne suffira pas aujourd'hui, ces entreprises, je voudrais dire qu'elles ont un peu de mal à grandir parce qu'il y a encore des obstacles pour faire grandir les entreprises, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un esprit d'entreprise qui est très important en France. Quand on fait de bonnes réformes bien ciblées, pas forcément coûteuses, celle-ci n'a pas coûté grand-chose aux finances publiques, eh bien, ça marche très bien.
D'accord. Mais écoutez, on va terminer sur cette grande leçon de pédagogie économique et d'optimisme. Aussi,
tout à fait.
En vous remerciant mille fois et en vous posant peut-être une dernière question auquel les économistes ne répondent jamais, mais en un mot, la sortie de crise financière, c'est quand ?
J'aurais envie de dire au printemps. Je pense que là, on est dans une période d'incertitude. Alors là encore, c'est facile de parler d'incertitude. Non, mais je pense néanmoins que, tant en ce qui concerne le système bancaire que la conjoncture américaine, je pense qu'il va nous falloir encore au moins 6 mois pour y voir clair. Mais les crises de ce type, il y en a déjà eu beaucoup. Il y a le krach de 87, il y a eu la crise asiatique de 97, l'éclatement de la bulle Internet en 2001. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on finit toujours par en sortir. C'est un orage qui sera peut-être long, qui sera peut-être fort, mais on finit toujours par en sortir. Il faut faire le dos rond et attendre.
Et finalement, les finances françaises sont pas très, très mal, les financières françaises sont pas très mal placées.
Alors, il y a de très bonnes affaires à faire, à mon avis.
D'accord. Alors, je merci encore à vous, merci Nicolas Bouzou, d'avoir pris de votre temps. Je rappelle votre ouvrage, le titre de votre ouvrage, Petit précis d'économie appliquée à l'usage du citoyen pragmatique, qui est paru chez Erol aux éditions d'organisation, et qui fait 143 pages et qui coûte la modique somme de 14 euros. Remarquable sur tous les points. Merci encore à vous, Nicolas. Au revoir.
Au revoir.